les podcasts de Radio Courtoisie, avec Valérie Daubigny.
Pourquoi les jeunes ne lisent-ils plus ? Deux rapports récents interpellent sévèrement le secteur du livre jeunesse. Les jeunes français et la lecture, l'étude Ipsos du Centre national du livre, qui sort tous les deux ans, ce qui permet des comparaisons. C'est extrêmement intéressant à suivre. Et le rapport des États généraux de la lecture pour la jeunesse, qui a été publié le 17 avril, à l'issue des États généraux de la lecture pour la jeunesse, qui ont été lancés en 2025, et ça c'est intéressant, par deux ministères, le ministère de la Culture de Rachida Dati et le ministère de l'Éducation nationale avec Elisabeth Borne. Le rapport vient de sortir, il dresse un état des lieux des pratiques de lecture des jeunes en France. Il propose des pistes d'action pour enrayer leur déclin, notamment face à la concurrence des écrans, mais ça ne vous étonnera pas. C'est ça qui m'a donné envie d'en faire un décryptage parce que ces deux sources valent la peine d'être rapprochées et peuvent permettre de mettre le projecteur sur quelques tendances fortes. Elles offrent des idées d'action concrètes en faveur du livre et de la lecture. Et ça, bien sûr, on peut s'en réjouir. Alors mon décryptage, Valérie Daubigny, je ne suis pas une institutionnelle en matière de littérature jeunesse, mais une praticienne depuis 20 ans. 20 ans que je me passionne par la recherche de belles pépites de littérature jeunesse contemporaine ou de réédition au service des lecteurs, des familles, de tous les acteurs du livre, les bibliothécaires, etc. Et moi aussi, je vois les choses dans le temps long. 20 ans, ça nous a permis de voir les évolutions. Et je m'intéresse beaucoup à ces rapports parce que, d'une certaine manière, ils viennent conforter ce que l'on observe de manière empirique. Et puis, d'autre part, ils laissent parfois un peu pantois parce qu'il y a d'énormes incohérences et que finalement, peu de gens dénoncent. Alors j'ai choisi pour vous quelques points de quelques coups de projecteur. Premièrement, soyons logiques. Pour goûter le plaisir de lire, il faut savoir lire. Cette condition est rarement posée comme première. Elle a longtemps été taboue d'ailleurs. C'est une évidence qui est aujourd'hui évoquée par les pouvoirs publics. Alors je me dis, pour qu'ils l'évoquent, pour qu'ils l'écrivent dans les rapports, c'est que véritablement l'affaire est grave. C'est la preuve qu'on ne peut plus maintenir clos le couvercle sur une vérité dérangeante, dissimuler les résultats catastrophiques de l'éducation nationale en la matière. Les débats idéologiques contre les tenants de la méthode syllabique, qu'on connaît depuis très très longtemps. On nous disait même, mais non, il ne faut pas commencer à apprendre à lire aux enfants avec la méthode syllabique, la fameuse méthode Boucher, vous les troublez complètement. Mais que constate-t-on aujourd'hui ? Eh bien, on constate que les écoles, notamment les écoles entièrement libres, qui n'ont jamais lâché le béaba, forment des classes de lecteurs sans laisser personne sur le bas-côté. Le problème des méthodes syllabiques et semi-syllabiques, c'est de la reconnaissance, c'est de la mémoire, c'est de l'intuition, un petit cheminement déductif, mais en fait à peine déductif, il est surtout intuitif. Et donc il laisse beaucoup d'enfants sur le côté. Nous avons donc la joie de pouvoir saluer l'une des conclusions du rapport des Assises de la littérature jeunesse qui préconise de faire attention aux méthodes d'apprentissage, mais surtout, il parle surtout du temps donné, donc une attention particulière en accordant plus de temps, plus de personnel et heureuse surprise, un retour des manuels scolaires papier. Alors là, c'est une très belle surprise, mais je vais vous dire, je suis habituée à voir des effets d'annonce, à voir des annonces qui font plaisir. On se dit, ça y est, on a pris conscience des problèmes et on revient au réel. Et en fait, on constate quoi ? Qu'il y a toujours des incohérences, j'ai envie d'employer ce mot, de schizophrénie, même s'il n'est pas parfaitement adapté. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire ? D'un côté, on va vous dire, oui, il faut revenir au manuel papier. Et de l'autre, on va allouer à nouveau plus de crédits pour les tablettes au collège. Eh bien, ce qu'on peut constater, c'est qu'à minima, on a deux générations qui ont été sacrifiées sur l'autel de l'idéologie, en matière d'apprentissage de la lecture, et on en est arrivé là. Un collectif de professeurs assène, dans le rapport des Assises de la littérature jeunesse, assène vraiment comme un couperet cette phrase « Les lecteurs médiocres d'aujourd'hui sont les professeurs de demain ». Déjà, je suis heureuse qu'on puisse commencer à mettre des mots, à dire les choses. Tant qu'on n'aura pas mis les mots, on ne trouvera pas les solutions. Mais malheureusement, je crois qu'il faut aller plus loin que ce constat. Il faut constater qu'aujourd'hui même enseigne une génération qui a déjà été sacrifiée. Les fautes d'orthographe dans les cahiers de correspondance, les fautes d'orthographe des profs, la grammaire et l'analyse à la poubelle. Eh bien, finalement, c'est des structures d'esprit qui sont défaillantes et très souvent, je suis navrée de dire qu'on a à la place de professeurs des perroquets qui répètent et qui lisent, qui trouvent leur cours sur Internet, qui ne discernent pas les sophismes. Vous voyez, comment voulez-vous qu'un professeur apprenne aux enfants à développer leur esprit critique, lui-même n'a pas les outils pour le faire. Pour discerner les sophismes, il faut avoir une certaine logique en soi. Il faut connaître la valeur des mots. Voilà, tout cela est très navrant et on a déjà cette génération de profs qui enseignent aujourd'hui et qui remplacent le savoir par l'opinion. Voilà, donc vous voyez, je trouve intéressant de prendre ce qu'il y a de bon dans ces rapports, mais mettons-y notre touche personnelle, notre touche d'observation empirique. Je voudrais aussi le faire pour ce sujet, combattre les présupposés de genre ou accepter la réalité. Vous les voyez dans les librairies, dans les grands espaces de vos grands centres commerciaux qui sont réservés aux livres. Vous voyez ces couvertures très girly, paillettes, licornes, avec un marketing omniprésent. Donc vous voyez très bien dans les rayons ce qui va s'adresser aux filles, ce qui va s'adresser aux garçons. Ça, c'est le marketing. Derrière, il y a beaucoup de... D'abord, il y a l'idéologie woke qui veut balayer la différence entre les garçons et les filles. Vous voyez, tout cela, on est tiraillé entre des tendances qui rendent très, très difficile le discernement. Et par-dessus tout cela, lorsque vous êtes, par exemple, dans des sélections de livres, vous faites une sélection, vous êtes libraire, eh bien... On vous dit qu'il est très dépassé, tabou d'ailleurs, de discerner les livres pour les garçons, les livres pour les filles. Bah, évidemment, il y a un nombre extrêmement grand de livres qui peuvent passionner autant les garçons que les filles, mais évidemment. Et évidemment, certains livres qui seraient dits pour les garçons peuvent intéresser des filles et vice-versa. On ne va pas faire des catégories, mais cessons de penser qu'un jeune garçon, je sais pas, moi, là en ce moment je pense à un jeune garçon, une jeune demoiselle de 10 ans, vous voyez, on est à la fin du primaire, on s'achemine vers le collège, et bien à cet âge-là on n'est absolument pas interchangeable. En 6e, les filles et les garçons ne sont pas interchangeables, ils ont une maturité, des goûts, des aspirations, même un développement physique qui est différent. Et ne pas en tenir compte, laisser de côté le bon sens et l'observation du réel est très grave. Alors je suis contente de voir que dans ces rapports, il y a une espèce de retour au réel. Dans le rapport du Centre national du livre, qui sort tous les 2 ans, comme je vous le disais, vous avez toujours dans les statistiques garçons et filles. Et ça, c'est intéressant. Et ça vient finalement conforter cette impression que l'on a à l'observation du réel. Mais il y a aussi une forte tendance à ne pas vouloir dire les choses de cette manière. Depuis le début de cet entretien, je ne vous ai pas donné de chiffres. Volontairement, depuis le début de ce podcast, je ne vous ai pas donné de chiffres. Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant pour vous de retourner aux sources de ces 2 rapports. Le rapport du Centre national du livre 2026, les enfants et la lecture, les jeunes et la lecture, et le rapport des Assises de la littérature jeunesse, que vous pouvez trouver tous les 2 sur Internet. Entrez dedans, allez voir ce qui vous passionne, sortez les chiffres, confrontez-les, vous voyez, faites ce travail. Je ne vous les donne pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces études périodiques, le Centre national du livre interroge toujours les publics distinctement. Et donc, vous pourrez voir, en vous reportant au rapport des années précédentes, toutes les évolutions. Cette précision, livre pour garçon, livre pour fille, Habitude de lecture des garçons, habitude de lecture des filles est un critère de recherche essentiel pour les parents. Vous voyez, quand vous entrez dans une librairie pour choisir un livre, après vous avoir demandé l'âge de l'enfant pour lequel vous cherchez un livre, le libraire va vous demander très vite, est-ce que c'est pour un garçon ou pour une fille ? Reste que les ouvrages proposés en classe, au collège et au lycée notamment, ne conviennent pas de manière uniforme aux filles et aux garçons. Donc c'est intéressant, dans ces rapports on dit, bah alors quel est le rôle de l'école ? Pourquoi l'école n'arrive pas à les faire lire ? Mais moi je crois qu'il faut s'interroger sur la mixité au collège. Là où la non-mixité permet aux professeurs de lettres, aux professeurs de français, d'adapter leurs propositions, et justement je reprends cette classe d'âge, 10 ans, 11 ans, 12 ans, début du collège, même 13, 14 ans, comme on est différent, garçon, fille, à cet âge-là. Et c'est une vraie joie pour les professeurs de lettres qui ont en face d'eux des classes de filles ou des classes de garçons de pouvoir adapter précisément les livres qu'ils vont proposer en lecture suivie, en lecture en classe. Je trouve que c'est un élément qui milite fortement pour la non-mixité, au moins au collège. Pouvoir s'adapter. Et soyons, nous sommes adeptes de l'observation du réel, nous osons le dire. Une autre raison de la différence d'habitude, garçon-fille, décroche plus tôt les garçons. Ils décrochent beaucoup plus tôt et plutôt plus gravement de la lecture aux alentours de la cinquième et on commence maintenant à baisser un petit peu en âge. Bah, une autre raison, c'est la lassitude. Est-ce que c'est la paresse ? Est-ce que ce sont les hormones ? Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que cette lassitude, elle gagne plus vite les garçons que les filles en début de collège. C'est aussi le moment de l'achat du premier portable qui offre un plaisir de détente plus immédiat. Alors, les filles s'accrochent plus longtemps à la lecture en dépit du portable, mais c'est en train de fondre. Elles cèdent du terrain aussi, année après année. Alors, le conseil, c'est d'encourager les parents qui retardent l'âge de l'achat du premier portable. Beaucoup de parents disent « Ah oui, mais moi, je voudrais attendre un peu, mais j'ai une telle pression et les enfants ont une telle pression. » Bah, encourageons-nous les uns les autres, donnons-nous de bons témoignages. Vous pouvez vous appuyer sur des parents qui partagent, par exemple, je pense au compte Facebook « Parents unis contre le smartphone avant 15 ans ». Ils ont obtenu des choses des pouvoirs publics. Hein. C'est pas neutre, c'est pas inutile tout ça. Et puis surtout, la première utilité, c'est qu'on se tient les uns les autres. Je vous assure que les parents qui ont tenu jusqu'à la seconde, et même parfois certains tiennent jusqu'à la fin du lycée, avec leurs enfants, il ne s'agit pas de contenir de manière arbitraire, mais c'est quelque chose, une décision qu'on prend avec les enfants. Il faut leur montrer que pour eux, c'est une source de liberté. La liberté, mais vraiment, c'est un gage de liberté. Tu n'auras pas ce fil à la patte. Tu n'auras pas ces addictions pour les réseaux sociaux, pour des jeux débiles. Voilà, tu vas pouvoir te nourrir autrement. Si on arrive à avoir cette complicité pour tenir, je pense que c'est une clé de réussite merveilleuse en éducation. Un autre motif sournois qui explique pourquoi les garçons lisent moins que les filles au collège, c'est le regard des autres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais un garçon qui lit au collège, il se fait moquer. Il se fait même parfois harceler. Le garçon à lunettes qui lit, il est souvent harcelé, beaucoup plus qu'une fille lectrice. Se faire traiter d'intello, recevoir des insultes dégradantes, décourage le lecteur garçon, qui ne s'expose pas avec un livre et se détourne peu à peu de la lecture. Jouons la culture contre la bêtise. C'est quelque chose dont on peut parler avec nos enfants. Et puis, voir des papas lire. Des hommes référents, des hommes qu'on admire, qui se passionnent pour des livres. Bah ça aussi, ça peut fortifier les garçons. C'est vraiment important. On voit dans les études qui est prescripteur, et ce sont souvent les mères. Ce serait bien que les papas soient aussi prescripteurs de livres. Tu vois, moi, ce bouquin, je l'ai lu quand j'avais ton âge. Je m'en souviens encore. Ça m'a fait du bien. Voir les pères prendre des livres le week-end. Vous voyez le rôle de l'exemple. Dans le même ordre, je suis navrée de voir dans l'étude du Centre National du Livre que les parents ne prennent plus ce temps si précieux de la lecture du soir. Ils le prennent encore, hein, et c'est souvent le seul moment de la journée où, dans des rythmes vraiment très très soutenus, à la fois des parents, mais à la fois des enfants, il faut voir quelles sont leurs journées de classe, quand ils sont restés à la cantine, quand ils ont eu ensuite le temps après l'école, périscolaire, etc. C'est rude pour eux. Eh bien, ce moment de la lecture du soir, mais c'est un moment de telle détente, mais de détente physique. Les rythmes cardiaques s'apaisent. Quand on lit un livre à son enfant, on respire, on met des virgules, et là, par votre souffle, vous allez vous apaiser. Tout ça, votre enfant, même tout petit, il s'en rend compte. Jeunes parents, même si vous avez du mal avec la lecture vous-même, même si c'est pas forcément facile pour vous de lire, parce que, peut-être vous n'avez pas cette aisance, vous ne l'avez pas reçue, mais prenez le temps. Prenez des livres qui vous plaisent à vous, des livres qui vous font du bien, parce que c'est communicatif. Et puis, par pitié, que ce petit moment sacré ne passe pas à la trappe chez vous. C'est très important. On peut se dire « Ah oui, mais il y a des podcasts littéraires, le petit livre du soir qui n'est pas lu par le parent, mais qui est regardé sur un écran, une petite vidéo. C'est très bien fait, c'est joyeux, c'est charmant, c'est respectueux du livre d'origine. » Eh bien moi, je vous le dis, ça ne remplacera jamais le moment de partage et d'amour qui est actif, qui est chaleureux entre vous et votre enfant. Parce que c'est votre voix, c'est votre présence entièrement consacrée à votre enfant. Et c'est ça le beau cadeau. Et ce moment-là, ce moment trésor, il ancre l'amour des livres. Autre petit point que je voulais développer pour vous. Le roman regagne un peu de terrain sur les mangas. On peut s'en réjouir. On se dit, ah, le roman qui est réputé discipline reine en matière de littérature, reprend sa place. Eh bien, je pense que la réalité est plus en demi-teinte lorsqu'on commence à regarder la nature des romans qui ont le vent en poupe en ce moment. Et je veux pointer très particulièrement la dark romance que beaucoup de parents ignorent complètement. Et cette dark romance, elle porte bien son nom, romance noire, elle se ferait une bonne place dans le sous-genre du roman, qu'est la romance et qui est très en vogue. Alors parents, regardez ce que lisent notamment vos filles, parce que ces livres-là touchent plutôt les filles. Ils ont des couvertures très attirantes, très très soignées, et ce sont des lectures très addictives. Elles ont pour ingrédient, le plus souvent, et d'ailleurs il est assez navrant de voir que c'est un peu toujours la même trame, une soumission à la manipulation psychologique et sexuelle, le plus souvent violente, d'un beau ténébreux, assez inaccessible, et qui n'en est que plus séduisant. Par ces lectures addictives, les filles baissent la garde contre de vrais manipulateurs en chair et en os qu'elles croiseront, on peut l'imaginer, on en a toutes croisées dans leur vie. Alors, les professionnels de la littérature jeunesse contemporaine, lorsque vous les interrogez là-dessus, vous leur dites « Attendez, il n'y a pas un paradoxe avec les messages omniprésents sur le consentement, la dénonciation du sexisme ?» Ils vous disent « Non, 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 ça je l'ai vraiment entendu de mes oreilles dans un colloque sur la dark romance. Oh non, les filles savent très bien ce qu'est le consentement. Mais je suis désolée, mais dire ça, c'est ignorer profondément ce que nous sommes, notre nature. Nous sommes pétris de tous les supports culturels dont nous nous sommes nourris. Ils font partie de nous-mêmes au moment où, dans nos vraies vies, nous rencontrons des situations similaires, où nos défenses peuvent être éveillées ou endormies. Et moi, je pense que ça peut les endormir. Et ça, j'en suis absolument navrée pour toutes ces jeunes filles qui passent à côté d'une très bonne littérature, de bons romans où elles auraient finalement les mêmes palpitations, hein, mais sans cette présence de pervers narcissiques qui font baisser leur garde. Alors on dit oui, mais l'important c'est qu'ils lisent, on va pas en plus aller mettre notre nez dans les livres que nos enfants ont entre les mains, on est déjà tellement content qu'ils en aient un entre les mains. Et bien là, je me permets de vous renvoyer au livre que j'ai écrit, Donner le goût de la lecture aux enfants de 0 à 16 ans chez Arthège, Valérie Daubigny en 2024. Ce livre, dans ce livre, j'ai tout un chapitre là-dessus. Je ne vais pas en plus aller mettre mon nez dans ce qu'ils lisent. Eh bien si, mes amis, il s'agit d'aller voir ce que vos enfants lisent. D'abord parce que positivement, on va partager, on va s'émouvoir, on va se passionner ensemble, on va avoir un fond culturel commun. Mais bien sûr, intéressons-nous à ce qu'ils lisent. Et si le livre ne correspond pas aux valeurs que nous voulons transmettre à nos enfants, à ce qui semble primordial à nos yeux, chaque famille a son alchimie, chaque famille met des mots derrière cette généralité, eh bien, c'est le moment d'en parler. Et on ne laisse pas son enfant avec un aliment qui est très mauvais pour sa santé physique. Eh bien, on ne laisse pas son enfant, même jeune, grand jeune, avec un aliment intellectuel qui va venir l'abîmer. Il faut que nous formions le goût de nos lecteurs par de bons choix. Choisir un livre parce que tout ne se vaut pas. Et puis choisir un livre parce que ça fait partie du plaisir de lire. Développer le plaisir de la lecture, c'est aussi donner à nos enfants ce choix, ce plaisir de dire, ben voilà, ça me plaît, ça ne me plaît pas. Ça, je sens que ça me fait du bien. Ça, je sens que ça ne me fait pas du bien. Ne pas lire pour lire, ne pas s'autoriser à faire entrer n'importe quoi dans notre bibliothèque intérieure. Cela nous construit. Toutes les initiatives qui relient les acteurs du livre et l'école sont les bienvenues, elles portent du fruit. Elles sont déclinées dans ce rapport des Assises de la littérature jeunesse qui vient de paraître, Assises qui ont eu lieu en les États généraux de la lecture pour la jeunesse qui ont été lancées en 2025. Il y a beaucoup, beaucoup de belles initiatives qui ont été lancées aussi par les pouvoirs publics et puis qui relient les matières à l'école et qui relie les acteurs du livre avec le monde de l'école, avec le monde professionnel. Il y a énormément d'idées. Elles sont toutes bienvenues. Rendons hommage aux auteurs, aux illustrateurs, aux éditeurs de talent qui contribuent à former le goût de nos enfants en leur offrant des pistes d'envol merveilleuses. Des pistes d'envol vers ailleurs, vers plus grand, vers l'autre. Ça, c'est extraordinaire. Soutenons vraiment cela. Et en soutenant les librairies indépendantes qui font partie du combat pour la lecture. Elles sont visibles dans nos centres-villes. Un jour, elles ne le seront peut-être plus parce que nous n'y allons pas, parce que nous ne leur manifestons pas notre intérêt, nous ne les soutenons pas financièrement. Et pourtant, elles mettent le livre en valeur. Et quand on les voit dans nos centres-villes, entre la pharmacie et la boucherie, la librairie, eh bien, elle fait partie de notre vie au même titre qu'un aliment quotidien. Un point très intéressant relevé par le Centre National du Livre et qui alerte, je l'ai vu dans les commentaires, c'est que de plus en plus, les jeunes lisent en faisant autre chose à côté. Alors, ils font autre chose en même temps qu'ils lisent. Même quand ils sont en train de lire, les sollicitations permanentes des réseaux sociaux éloignent les jeunes de la lecture. Elles fragmentent leur attention. On ne s'immerge plus, on est fragmenté et ceci altère profondément la capacité de concentration, bah évidemment. Et nous, les adultes, mais quel exemple offrons-nous, parents, adultes au contact des jeunes, dans notre propre pratique à l'égard du livre ? Est-ce qu'on ne fait pas un peu la même chose ? Je vous pose la question, mais je me la pose à moi-même. Combien de temps nos enfants nous ont-ils vus avec un livre à la main aujourd'hui ? Combien de temps nous ont-ils vus avec un portable à la main ? Ou avec les deux, simultanément peut-être, répondant aux notifications ? Il est fort possible que nos enfants nous aient vus dans la même situation et ils nous imitent et puis eux sont très sollicités. Pour pouvoir résister à la tentation de cette coupure, il faut pouvoir se couper de son portable. Et moi, je crois qu'il y a un moyen très, très simple, c'est de sortir, d'aller ailleurs pour lire, d'aller dans un jardin. J'ai même envie de dire d'aller dans l'escalier de l'immeuble. Vous voyez, changer son endroit de vie habituel. Lire dans les transports en commun, mais à condition que le portable soit dans notre poche. Je pense que là, il y a quelque chose à jouer qui peut être très, très intéressant. Un tiers des 16-19 ans ne lit pas du tout. Je répète, un tiers des 16-19 ans ne lit pas du tout. On est dans la tranche d'âge où ça y est, on prend son envol, on va s'orienter, on s'ouvre au monde, on a plein de cases ouvertes, de la curiosité, de la passion, et on ne lit pas. Un tiers ne lit pas, 16-19 ans. Comment s'étonner que le plaisir de lire diminue si on ne pénètre pas durablement dans les pages? Ça nous renvoie au point précédent. Ils lisent en faisant autre chose. Si on ne s'immerge pas dans une histoire, un texte, d'autres psychologies, un ton de narration, eh bien oui, on décroche. On décroche, puis parfois on décroche durablement. Pourquoi? Mais parce qu'on ne comprend pas ce qu'on lit. La compréhension, elle est au prix de la concentration. Une suggestion, on s'extrait de son environnement ordinaire, donc ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on s'éloigne de son écran doudou et on reconquiert de la liberté. Vous voyez, je reviens toujours à cet élément de la liberté, je crois que c'est fondamental. Quid de la concentration sur un article ou un essai qui apporte nuances et sources? Et quand on lit un article, vous avez le plus, le moins, l'un pense que, l'autre pense que. Voilà, on nuance, on a des informations à décrypter, on les met en perspective. Mais ça, ça demande du temps, ça demande de la concentration. Et ne pas savoir le faire, ne plus pouvoir le faire, eh bien c'est ça qui ouvre à une manipulation des esprits extrêmement simple, parce qu'on ne prend plus de distance face aux stimuli réflexes. Former le goût pour le beau et le grand, encourager la quête de la récompense qui se mérite, développer ce plaisir unique qu'offre le livre par le toucher, par le poids dans les mains, le bruit des pages, même l'odeur des pages. Vous voyez, c'est très, très sensoriel tout ça. Et permettre d'avancer dans un livre à son propre rythme. Quand vous regardez une vidéo, vous avancez au rythme de la vidéo. Ce n'est pas forcément votre rythme naturel. Vous pouvez l'augmenter ou le ralentir, évidemment, mais ce n'est pas pareil. Vous voyez, poser sa main, lever les yeux, intégrer une phrase, reprendre. Ben voilà, ça, le livre, par cela, il est une clé de liberté. Conclusion, si ces deux rapports ouvre des voies qui semblent revenir au bon sens, au réel et offrir des pistes d'action. Constatons néanmoins que les pouvoirs publics sont une fois de plus dans une grande incohérence. En promouvant très souvent l'usage des écrans et des tablettes à l'école à la place des manuels scolaires, tout en disant qu'il faut bien sûr garder le manuel scolaire, la consultation des notes par Internet? Bah oui, ma maman, il me faut un portable parce que voilà. Et je voudrais finir en partageant avec vous cette information relevée par Le Figaro et par Radio France que je vais citer. C'est une information qui laisse a priori sans voix et embarrasse passablement le ministère de l'Éducation nationale. À l'heure de la lutte affichée contre l'addiction des enfants et des ados aux écrans, la stratégie nationale Esport 2026-2030, validée par Matignon le 8 avril et qui va bientôt être diffusée, après une concertation interministérielle, prévoit dans son volet scolaire d'intégrer l'esport, cette pratique du jeu vidéo de compétition dans les parcours éducatifs et scolaires. L'affaire a été révélée le 7 mai par la cellule investigation de Radio France, qui a eu des documents de présentation de cette stratégie. Pour l'éducation nationale, il s'agirait d'imaginer des horaires aménagés pour les joueurs, comme elle le fait pour les sportifs de haut niveau. Et pourquoi pas alors des horaires aménagés pour les influenceuses, demande Le Figaro, pendant qu'on y est. Mais de quoi parle-t-on? Pas du sport virtuel qui décline une discipline sportive comme le tennis ou la boxe sur les écrans virtuels, mais de jeux vidéo en ligne. Parmi les mesures prioritaires de cette nouvelle stratégie interministérielle qui vise à développer et accueillir les grands événements e-sport pour soutenir l'industrie numérique française et l'attractivité de la France à l'étranger, Le volet scolaire occupe une place centrale. On nous dit que le document prévoit d'abord la création de partenariats entre établissements scolaires et acteurs privés du secteur du jeu vidéo. Vous la voyez venir, la manip commerciale. Les alertes de la Direction générale de la Santé et de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, qui ont alerté sur de possibles conflits d'intérêts avec des agences commerciales, n'ont pas été prises en compte. Car pour justifier l'arrivée de l'esport à l'école, le gouvernement s'appuie sur une expérimentation, on ne le savait pas, hein. Ça a été expérimenté depuis 2022 dans le diocèse de Versailles. L'initiative vise, selon un document de présentation du projet, à explorer les potentialités éducatives de l'e-sport en contexte périscolaire, en s'appuyant notamment sur la collecte de données quantitatives relatives aux performances cognitives, psychosociales et numériques des élèves. En clair, on va mesurer si la pratique du jeu vidéo à l'école peut améliorer certaines capacités cognitives des élèves, comme l'attention ou la mémoire. Mais n'importe quoi, la réponse, on l'a déjà. Elle décline de tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent. Moi, je soupçonne davantage la collecte de données à des fins commerciales pour enfoncer de plus en plus les jeunes dans la dépendance aux écrans et les couper de la transmission culturelle. En faire des adultes avachis, physiquement et moralement, cobayes encore et toujours dans l'éducation nationale. Nos enfants trouveront donc leur bonheur, leur liberté de penser et d'agir dans des livres soigneusement choisis. Résistons plus que jamais, avec passion. C'est un des plus beaux combats qui nous soit donné de mener contre vents et marées et sans attendre l'aide des pouvoirs publics.
C'est un podcast de Radio Courtoisie avec Valérie Daubigny. Retrouvez-nous sur podcast.rc.fr et n'oubliez pas de nous soutenir sur soutenir.rc.fr.